En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Sous l'impulsion de l'empereur Wu, donc tout d'abord pour vous resituer en fait le contexte, le titre en lui-même, le titre en lui-même c'est donc la Chine du Nord-Ouest. Le Nord-Ouest c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut prendre, vous avez ici la Chine avec ses frontières actuelles, la région du fleuve jaune. Et la partie du Nord-Ouest au 1er siècle avant, 2e 1er siècle avant, concerne, vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Oui, mais sinon, oui, très bien. C'est lequel?
Le milieu.
Oui, ça fonctionnera plus comme ça. Oui, d'accord. Donc c'est, vous voyez, le fleuve jaune est ici, et la partie qui intéresse la Chine des Han, on va revenir dessus, c'est deux régions, le Gansu, ici, et le Xinjiang, c'est-à-dire donc toute la partie notamment située à l'ouest du fleuve jaune. D'accord? Durant cette communication, c'est majoritairement la région du Gansu qui sera concernée. Alors, sous l'impulsion de l'empereur Wu, donc entre 141 et 87, ce sont ses dates de règne, l'empire des Han antérieurs connaît une expansion sans précédent au nord-ouest, à l'est. Donc voici l'empereur Wu avec ses magnifiques images, on n'en a pas de son époque, et au sud de la Chine jusqu'à atteindre les frontières que nous lui connaissons à nos jours. C'est au IIe siècle avant que l'empire va s'étendre et va arriver en fait aux frontières actuelles. Dès lors qu'on étudie cette politique offensive, les grandes murailles sont généralement considérées comme l'élément principal et central de la stratégie militaire Han de cet empire. En témoigne cette carte replaçant l'ensemble des murailles élevées durant l'histoire chinoise du 4e avant au 17e siècle. D'ailleurs, combien de fois dans les différentes études que nous avons, retrouvons-nous la grande muraille en pierre datant de la dynastie des Ming et bien connue pour utiliser et justifier ce propos? Sous les Han, les lignes défensives, illustrées ici, et représentées majoritairement beaucoup plus par ce type de fortification, sur lesquelles je reviendrai, sont construites pour protéger au nord l'empire grandissant. Alors, la présentation que je vous propose est de comprendre en fait la manière dont les Han ont conquis ces territoires du nord-ouest et quelles sont les raisons qui les ont poussés en fait à aller autant vers l'ouest. Nous commencerons donc par étudier en fait un point clé, la relation entre l'empire des Han et la puissance Xiongnu, toujours très sous-estimée. Puis on rentrera sur les motifs pour cette conquête. Et enfin, j'ai pris un cas particulier pour vraiment se rendre compte des fouilles actuelles, puisque moi-même, je fais des prospections dans la région du Gansu avec l'Institut de Dunhuang, que vous verrez tout à l'heure, et pour cartographier en fait la région. Depuis la fondation de l'empire des Han et jusqu'à l'investiture de l'empereur Wu, c'est-à-dire entre 200 et 140 avant, la dynastie est affaiblie par de nombreuses crises économiques et politiques internes. À cette époque, l'empire est réparti en commanderies impériales, administrées par un gouverneur répondant aux ordres de la cour impériale et donc de l'empereur, situées à Chang'an, dans la région du Shanxi, et en royaumes administrés par la famille de l'empereur. Ce sont des fiefs, tout simplement, qui sont distribués en fait au moment de la fondation de l'empire par des compagnons d'armes et par les membres de la famille de l'empereur. Or, en 162, avant notre ère, ces royaumes tentent de renverser le pouvoir impérial, menant à la guerre des sept royaumes. Cette révolte qui affecte l'économie centrale est écrasée en 154 par le pouvoir impérial sous le règne de Tingdi. La victoire permet à la dynastie de renforcer son contrôle sur ses fiefs, où prospérait alors une vie artisanale, commerciale et culturelle tout à fait florissante. Et je vous invite à ce propos à regarder encore le catalogue d'exposition du musée Guimet de l'année dernière, où ont été exposées ces œuvres, qui sont tout à fait vraiment de grande qualité. Encore un exemple ici, où vous avez en fait cette technique d'incrustation. Ça, ce sont des objets qu'on trouve dans les tombes de ces royaumes, et très peu dans les commanderies. C'est vraiment un faste et un luxe où le commerce était excessivement riche. Alors, lorsque l'empereur Wu accède au trône 13 années après cette victoire, il se retrouve donc aux commandes d'un empire plus solide, lui permettant d'équilibrer l'économie centrale et d'élever une armée capable de rivaliser avec la principale menace ennemie de cette époque, l'empire Xiongnu. Les Xiongnu désignent un ensemble de peuples pastoral de type ouralo-altaïque, dominant notamment la steppe de la Mongolie extérieure et de l'Altaï. Au tournant du second siècle avant, cette confédération nomade se fédère et devient très rapidement une importante puissance politique qui lui a valu parfois le qualificatif de premier empire des steppes. Il suffit d'observer d'ailleurs le territoire en 160 pour remarquer à quel point la puissance de l'empire Xiongnu était bien plus importante que celle de l'empire des Han. On voit très très rapidement que les Xiongnu dominaient une majorité donc du nord, du nord-ouest, et c'est justement ça qui est intéressant. Avant et au début du règne de l'empereur Wu, la suprématie sur l'armée chinoise, notamment par la capacité de ses chevaux, obligea même la dynastie des Han à une politique d'échange de cadeaux, désignée sous le terme de Ruxin, et matérialisée par des échanges de princesses chinoises avec le Shanyu Xiongnu, c'est-à-dire le Khan. Malgré cette paix, les Xiongnu se déploient au nord et au nord-ouest de l'Empire Han, effectuant les invasions fréquentes sur les commanderies militaires septentrionales du fleuve Jaune. En 157, les Han sont par exemple contraints de céder quelques-uns des territoires du nord, et les attaques Xiongnu, quand même importantes, sont en fait, ce sont des raids nomades, dont le seul but est de détruire les postes frontaliers sans toutefois les occuper pendant plus de quelques jours. On a un exemple intéressant dans les textes. En 177 avant, ils attaquent la commanderie de Beidi et de Shang pendant quelques jours seulement. Puis, alors, il faut faire attention aux chiffres donnés dans les textes chinois, je reviendrai sur les sources, mais à peu près 85 000 cavaliers. Alors, c'est toujours des 1000, 85 000, 100 000, 200 000. On connaît, vous savez, l'expression « je vous souhaite 10 millions de vies et de bonheur ». C'est toujours des chiffres ronds, évidemment. C'est représentatif de dire « beaucoup ». Beaucoup de soldats, en fait, se sont mobilisés pour reprendre, en fait, ces défenses. Et à ce moment, les Xiongnu ne ripostent pas, se retirent dans le nord et dans l'ouest, de l'autre côté des murailles, vers la steppe mongole. Cet exemple typique, modèle connu, en fait, finalement, des raids nomades, affecte complètement la frontière Han, qui doit alors se reconstruire, encore une fois, ce qui entraîne une perte financière énorme et un bilan humain toujours très lourd. La puissance Xiongnu reposait sur celle de ses chevaux. Mais aussi, et c'est là qui est intéressant et qui m'a d'ailleurs poussé en fait à réfléchir par rapport à le sujet de cette journée, sur son occupation de deux territoires principaux. La première zone, désignée par les Han sous le nom de Russi, à l'ouest du fleuve Jaune. Alors, Jacques Giest, au Musée Guimet, avait un autre terme que j'aime bien. Il parlait de Far West, tout simplement pour désigner les terres situées à l'ouest du fleuve Jaune. Et c'est ce terme que l'on trouve dans les textes chinois du IIe siècle avant. Le Russi désigne en majorité en fait le corridor du Gansu, mais aussi une partie de la Mongolie intérieure, du Ningxia et du Qinghai. La seconde zone occupée par les Xiongnu est plus à l'ouest. Donc là, vous avez par exemple des exemples de terres parfaitement, vraiment très propices à l'agriculture. Et la deuxième territoire est considérée comme le terme Siyu, c'est-à-dire contrée occidentale. Au deuxième avant, Siyu désigne majoritairement la région du Xinjiang. Et évidemment, ces deux zones ont un point commun, contrairement à la steppe mongole, à la steppe où donc le pouvoir Xiongnu était donc situé, ce sont des territoires où l'agriculture et le commerce prospèrent et sont évidemment leur source de richesse. Les oasis du Taklamakan, dont je parlais tout à l'heure, qui forment finalement en fait ces liens avec, et je suis obligé de dire ce terme, même si personnellement dans mes publications je n'en parle plus, des routes de la soie, dans ces routes de communication, ces oasis que nous désignons, nous, comme cité-État, finalement sont des points tout à fait importants qui ont des ressources minières, commerciales et agricoles excessivement fortes. Et il faut savoir que lorsque les Xiongnu occupent dès 170 ce territoire, ils vont même en fait considérer que la région du Gansu et du Xinjiang est considérée comme le bras droit de la puissance Xiongnu. Tellement, finalement, tant la richesse en fait était importante. Alors, avec l'investiture de l'empereur Wu, c'est-à-dire en 140-141 avant, la stabilité du pouvoir central va conduire les Han à engager un répondant à cette menace. À Chang'an, se profile une stratégie offensive avec pour but de reprendre les anciens territoires frontaliers du nord de l'Empire. Dirigé par les généraux Li Guangli, Wei Qing, Huo Qubing et Chang Bushu, en 129 avant, les répliques militaires sur les frontières nord sont victorieuses et permettent de fonder plusieurs commanderies au nord-ouest du territoire de Shuofang et de Wuyuan, et ainsi de consolider donc la partie nord de l'Empire Han. Étant donné l'importance du Reci, dont j'avais parlé, qui est un couloir naturel pour accéder au cœur de l'Empire, alors si je peux me permettre quand même, j'ai remarqué qu'il y a un slide qui a sauté, mais ici en fait vous devez situer en fait la capitale de la Chine, hein, des Han, Chang'an, et ici vous avez le Reci. Alors à cette époque, donc les Xiongnu dominent cette partie-là, et si ils contrôlent ce corridor du Ganzhou, que l'on verra plus tard, c'est un point de passage facile pour accéder en fait à la capitale impériale. Donc, dans la logique de l'Empire Han, il était important de repousser aussi la cavalerie Xiongnu et donc son occupation sur cette partie du corridor. Dès 121, donc, sous le commandement notamment d'un général très connu en Chine, Huo Qubing, sont engagées deux principales expéditions militaires, chacune composée de plus de 10 000 cavaliers, vous voyez, les chiffres ronds sont pratiques, qui pénètrent le territoire Xiongnu aussi loin que vers les monts Tilian, c'est-à-dire les montagnes du nord, déterminées ici par ces montagnes-là. Alors, selon l'historiographie officielle, plus de 40 000 soldats, soit un demi de la force Xiongnu dans le Reci, sont tués durant ces raids. Alors, ces combats s'étalent ensuite sur entre 121 et 87 avant notre ère et mènent progressivement au recul de la puissance Xiongnu. Durant cette période, c'est près de 1 159 000 soldats. Le chiffre, en fait, est tout simplement un calcul donné par le nombre de soldats envoyés, en fait, au nord-ouest et qui sont mobilisés pour occuper les territoires situés, donc, dans cette région. Et en l'espace d'une cinquantaine d'années, entre 119 et 60, ce corridor sera conquis, fortifié, administré et organisé en quatre commanderies principales. Tiotuan, alors remarquez l'ordre, ça va un peu vite, hein, mais vous voyez l'ordre en fait de fondation est la suivante. Il commence toujours par Tiotuan, Jiangye, qui sont deux commanderies centrales. Ici, vous avez la capitale, d'accord? Là, vous avez le fleuve jaune, ici. Et Wuwei, qui est dans la partie la plus intérieure, finalement, de la Chine, et celle qui est construite en dernier. Ces commanderies seront administrées par un gouverneur et serviront de base d'accueil pour une forte politique migratoire chinoise, donc de populations civiles qui sont déplacées depuis le centre de l'Empire vers ces nouvelles régions conquises du Nord-Ouest. Elles serviront donc de base défensive et l'important est de savoir que ces civils vont grossir les rangs de l'administration locale, de développer le commerce, etc. Alors, étant donné que là, vous avez eu, je vous ai donné un contexte historique généralement connu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, enfin, connu dans le sens où, que l'on peut retrouver facilement. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de comprendre les motivations et notamment une période assez méconnue, c'est-à-dire entre 119 et 111, c'est-à-dire durant une période où les conquêtes se font, quelles sont les motivations qui ont poussé les Chinois à aller dans le Nord-Ouest? Et on va voir qu'ils vont mettre beaucoup de temps à conquérir et à administrer ces territoires. Puisque finalement, le déroulement des opérations décrites plus haut semble assez logique, en fait. On sent que, quand on lit ces histoires et les textes en général, le territoire est conquis, il faut directement l'occuper, l'intégrer à l'Empire et construire une ligne défensive, comme vous pouvez voir ici par cette carte. Ici, nous sommes en 111, mais attention, chaque carte, en fait, est erronée, tout simplement, puisque la muraille, ici, que nous verrons plus tard, en fait, est construite à la fin du second siècle avant, et notamment au premier siècle avant, en sachant que les conquêtes chinoises ont commencé vers 121. Soit, il y a à peu près 20 années de laps de temps entre le moment où ils occupent ce territoire et décident d'installer leur ligne défensive. Pourquoi? Je vous le dirai en conclusion, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Nous disposons donc, et là je prends un petit peu de temps pour parler des sources, de deux principales sources historiques de l'époque. Alors, tout d'abord, il s'agit des mémoires historiques de Sima Qian. Sima Qian est un historien à la cour de l'empereur Wu. Ils s'entendent même très peu. Sima Qian raconte finalement les événements qui se produisent durant cette période. Et là, vous avez donc tout simplement en fait les différents volumes que nous lisons toujours de droite à gauche en colonne. Et une partie a été traduite par Édouard Chavannes au début du XXe siècle. une grande collaboration scientifique allemande et anglaise a décidé de poursuivre la traduction. Suivi au 1er siècle d'une autre source qu'on appelle l'histoire des Han antérieure. Donc là, j'en ai pas parlé, faute de temps, mais c'est-à-dire que l'Empire des Han est divisé en deux. Elle est divisée par la période des Han antérieures, c'est-à-dire 2e siècle avant jusqu'à la fin du 1er siècle et tout début du 1er siècle de notre ère, soit entre 200 et 6, et les Han postérieures. Entre deux, il y a une usurpation du pouvoir, et c'est pour ça qu'il y a donc cette scission. Et c'est dans la logique chinoise, en fait, de l'historiographie chinoise, on ne fait une histoire d'une dynastie que quand celle-ci est déchue, est abandonnée. Et donc, au 1er siècle, Bang Wu, cet historien, fait cette histoire, et c'est à partir de ces deux textes que j'ai pu exposer, en fait, ces différentes dates. Alors revenons sur deux phases intéressantes. Revenons en 119, alors que les victoires de Ruo Qubing donc, repoussent la puissance Xiongnu au nord, au-delà des Tiliennes, les textes historiques permettent de suivre la politique d'occupation. La première phase fut d'investir et de fortifier les territoires orientaux du fleuve jaune, en fondant notamment les commanderies de Longxi, Beidi, Shuofang et Anting. C'est depuis ces bases militaires qu'environ 60 000 soldats laboureurs, en fait, ce terme est très intéressant, c'est le terme qui est utilisé, ce ne sont pas des soldats uniquement, ce sont des soldats laboureurs, donc qui pratiquent l'agriculture, qui sont envoyés de l'autre côté du fleuve jaune pour administrer en fait une partie du territoire qui sera la commanderie de Wuwei. Donc ils s'arrêtent ici, d'accord ? Durant cette politique, donc, ces soldats ont pour mission de construire tout d'abord des travaux d'irrigation afin de développer l'agriculture locale, améliorer les routes centrales en contrôlant par l'installation de Tingsui, sont tout simplement des tours ou des postes défensifs, et un bureau agricole est tenu par les soldats et fonctionnaires. Et justement, un passage des mémoires historiques dit la chose suivante, les Han franchissent la Ro, c'est-à-dire le fleuve jaune, et partout depuis Shuofang jusqu'à Lingtu, qui sont ces commanderies du fleuve jaune à l'est, ils connectèrent des canaux d'irrigation et établirent des bureaux d'agriculture. Ceux-ci sont manœuvrés par environ 50 à 60 fonctionnaires, et soldats grignotant, et là c'est intéressant, peu à peu, le territoire ennemi. Le territoire était adjacent au nord du territoire natif des Xiongnu. La tension est donc très claire quand on regarde ce texte. La conquête devait nécessairement se traduire par une directe occupation agricole, puis militaire du terrain. Ainsi, entre 119 et 116, on retrouve en fait très peu d'informations sur cette phase et on sent même qu'il y a une politique d'hésitation du côté des Han à administrer ces nouvelles terres. Et plusieurs raisons à cela. La première est d'ordre économique. L'occupation du Russie coûte beaucoup d'argent à l'Empire. Songeons que peu de temps avant, en 136, se produisit un désastre écologique, celle de l'inondation du fleuve jaune. Donc, par exemple, vous voyez en fait un exemple contemporain, et un deuxième ici, qui ensevelit sous ses eaux, durant deux décennies, les régions les plus fertiles de la Chine de l'Est. Ce n'est que vers 108 que la brèche put être colmatée, donc presque 30 années. Hein. La politique de grands travaux menée par Woody, dont voici un portrait, la construction de routes, de canaux, de palais de défense de murailles, harassaient alors les paysans enrôlés de force sans apporter d'avantage économique. À cette époque, et notamment entre 130 et 120, les taxes se multiplient pour évidemment financer les conquêtes militaires, mais aussi pour dépenser de l'argent dans la sorcellerie et les quêtes de l'immortalité, puisque c'est toujours intéressant de le noter. Woody est un paranoïaque et de santé fragile, c'est les termes qui sont utilisés dans les sources chinoises, hein, fait, surtout Sima Qian, puisque Sima Qian, cet historien, n'aimait pas l'empereur Wu, parce qu'en fait, Sima Qian s'était ligué à un général très connu, Li Guangli, et lorsque Li Guangli en fait, est vaincu en fait, par les Xiongnu, Sima Qian prend sa défense, et pour cause, en prenant sa défense, il est obligé d'être castré. Et à partir de ce moment, il rédige en fait la deuxième partie des mémoires historiques. Et son discours et la manière d'écrire son texte changent. Et on peut imaginer donc le portrait qu'il fait en fait de l'empereur Wu encore en fait sur le trône. Et évidemment, Woody demeurait persuadé dès ses premières années que dignitaires, grands chanceliers, fonctionnaires, familles et généraux cherchaient à attenter à ses jours. Ainsi, créer de nouvelles commanderies sur un territoire fragile devait être hautement considéré et réfléchi en prenant en compte ces difficultés. Et justement, pour évaluer les dépenses, et là je fais appel à votre chinois, il faut connaître, il faut connaître le territoire à occuper. Or, durant cette première phase d'expansion, une fois les Xiongnu repensés vers l'ouest et le nord, on trouve souvent dans les textes le terme « kong », vide, pour désigner ce corridor. Aujourd'hui encore, un tel mot pourrait s'appliquer pour désigner, et là les images que vous avez montrées tout à l'heure se rejoignent, certaines parties du Gobi, où ce sont des étendues désertiques qui, même dès cette époque, étaient bien entendu irriguées, mais excessivement vastes. Dans le passé, ces lieux reposaient bien entendu dans des zones habitables, mais en fait, il est intéressant de remarquer, donc là vous avez quelques images que je fais de fortifications, mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le terme vide ne s'emploie pas toutefois de la manière dont nous on l'entend, c'est-à-dire territoire vide, sans terrain, absolument inutile, tel que nous on pourrait désigner comme un désert. En fait, dans le Ranshu, le passage suivant que je vous invite à lire, concerne l'expédition militaire de deux généraux chinois dont la mission fut d'aller vers l'ouest. Là, je relis. Vous avez pu lire le texte tout simplement. En fait, ces deux généraux qui partent de la zone de Wuwei et vont jusqu'à la région de Dunhuang. Et ils disent qu'ils marchèrent sur plus de 2000 lis sans rencontrer d'ennemis, puis en revers. Par vide, il faut donc ici comprendre la zone située à l'ouest du fleuve jaune, dépourvue de forces Xiongnu, et restée donc inoccupée. Ainsi, il n'est pas aisé pour les Han d'évaluer l'importance de ces immenses terres conquises, de savoir s'il fallait les intégrer à l'Empire, ou plutôt s'il ne fallait pas simplement contrôler les routes. C'est marrant parce que dans une grande partie des articles et travaux qu'on a sur ces régions, ça semble aller de soi. Les Chinois vont de soi, en fait, intégrer ces territoires. Mais le fait est que c'était une décision qui était complexe à cette époque. Enfin, une troisième raison est de fait de dire que le récit était certes débarrassé donc des Xiongnu au niveau donc du Gansu, mais d'autres ennemis menaçaient les nouvelles terres. Notamment, il faut parler d'un peuple proto-tibétain, celui des Tiang, dont le berceau est situé dans la région de Lili, et également un autre, celui des Wuzun, à l'est, à l'ouest, que vous avez ici, et dont le berceau est situé dans la région de Lili, ici. Avec ces terres fertiles donc, et ces hautes montagnes, le Reci constitue une source de richesse énorme pour ces peuples pastoraux. Bien qu'après les conquêtes, et on sait qu'après les conquêtes Han, il y a encore des raids nomades pour justement reconquérir ces territoires. C'est pourquoi entre 116 et 115, on apprend dans les textes que les Han cherchent par tous les moyens de fédérer des peuples nomades qui étaient également ennemis aux Xiongnu. Et en 115, depuis Chang'an, un émissaire chinois, Zhang Xian, est demandé de prendre contact avec Wuzun, donc prend ce chemin tout simplement, va rencontrer les Wuzun et leur demande de s'installer dans la région du Gansu occidental. Tout simplement de cette manière pour faire front contre le territoire Xiongnu et pour éviter les Chinois d'avoir à dépenser énormément de moyens pour occuper ces terres. C'est différent, donc là vous avez encore quelques exemples d'images pour ne pas être ingrat en termes de cartes. Ces différentes raisons expliquent donc cette situation. Et puis ensuite arrive une seconde phase. Entre 115 et 111, c'est la phase que nous connaissons le moins bien. Les données textuelles demeurent très vagues sur la manière dont l'expansion militaire se fait. Et plusieurs raisons à cela. Au niveau du centre du territoire, alors voilà, il y a à la même époque plusieurs expansions au sud vers le Vietnam, ici, vers cette même période, mais aussi vers l'est. Alors là, je crois que ça, ce sont des exemples de tambours et donc de tombes chinoises, en fait, situées dans le sud de la Chine, mais également vers l'est, vers la Corée, où en 108, à partir de 108, quatre commanderies sont établies et prennent donc le pas, en fait, sur la population locale. Et donc, ces conquêtes, en fait, demandent énormément d'argent, donc il y a plusieurs fonds à cette époque. Et puis, un deuxième point, c'est tout à fait intéressant, et de considérer qu'entre 115, donc, le Russie va être, n'est pas encore administré militairement, mais les Chinois vont envoyer près d'une dizaine de caravanes commerciales par an le long de ce corridor. Et pourquoi ? Parce que à cette époque, et le personnage est important, Song Rongyang, intendant du palais et puis chancelier impérial, c'est-à-dire la plus haute fonction de l'époque, va avoir une influence considérable sur la cour. C'est un fils d'une famille mercantile de Luoyang qui encourage le commerce avec les contrées étrangères. On sait ainsi que plus de 10 caravanes, donc, comme je disais, sont envoyées et mènent jusqu'au bord, donc en Ouzbékistan, dans le Fergana, la Sogdiane et jusqu'à la Perse. Vous avez quelques exemples d'ouvrages qui viennent de sortir, donc La Roue de la Soie qui est un ouvrage qui est tout à fait bien. Récemment, Valérie Hansen, une spécialiste donc, de ces routes, publie en fait un travail sur ces commerces. Et puis Emmanuel Chouanel, qui est un militaire, qui me semble, a fait cette étude sur les parts et les routes de la soie. Je vous invite à lire ces ouvrages qui en parlent davantage. Et donc voici en fait ces trois principales raisons. Et c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette période, donc, il n'y a aucune ligne défensive qui sont mises en place. L'objectif est donc de tenir les routes de communication. Mais la menace sur le corridor du Vidé de la puissance Xiongnu n'est pas complètement évincée. En 112, les Tiang et les Xiongnu se liguent, s'unissent pour écraser l'expansion Han aux frontières du Rossi. En passant par le Tigray, les Tiang, dont la population est estimée à 50 000 à cette époque, perce les défenses de Ling Tu, tandis que les Xiongnu mènent à la mort et à la destruction du gouvernement de la commanderie de Wu Yuan. Suite à cette attaque, évidemment, la sécurité du Rossi et de l'Empire est donc clairement menacée, et l'expansion vers le Rossi était pour ainsi dire obligatoire, au risque de se retrouver très vite face à une situation similaire à celle précédant l'offensive chinoise. Si les forces Han n'avaient pas durablement occupé ce territoire, tout porte à croire, d'après les mémoires historiques, que les Xiongnu viendraient réoccuper ce riche territoire du Rossi, ce qui est logique. Ainsi, en représailles, comme vous voyez ici, les Han n'avaient pas d'autre choix que d'engager une vaste politique d'occupation, de conquête et d'administration de ces territoires. En 111, ils envoient donc près de 100 000 fantassins et 25 000 cavaliers contre les Xiongnu, puis près de 600 000 soldats accompagnés de soldats laboureurs. Je vous invite également à vous méfier des termes. Et c'est à la suite de cette conquête que ces quatre commanderies sont mises en place. Alors, il est intéressant, et donc c'est ma dernière, j'en ai plus pour longtemps. On est bon en termes de temps. Il m'a semblé intéressant, maintenant qu'on a en fait une vision plus intéressante de cette politique de cette époque, de prendre un cas particulier, celui sur lequel ma thèse porte, et surtout sur lequel nous avons de nombreuses sources d'informations, la commanderie impériale de Dunhuang. Commanderie où je vous invite d'aller, enfin, pas la commanderie, la région évidemment. Qui est connu notamment par des grottes bouddhiques de Mogao, où des manuscrits ont été découverts au début du XXe siècle, notamment par Paul Pelliot et ce Britannique, Sir Mark Orenstein. Dans la région de Dunhuang, on trouve en fait de nombreux témoignages de cette occupation chinoise et nous permet de comprendre comment celle-ci était mise en place, pratiquement. Dans la seule région de Dunhuang, l'importante amplitude thermique, les rares précipitations sont autant de facteurs qui ont permis la bonne préservation des sites antiques. Depuis les explorations menées par Sir Orenstein au début du XXe, les fouilles archéologiques chinoises n'ont eu de cesse de se développer et de mettre au jour quantité de sites antiques. Donc là, vous avez par exemple donc cet ancien delta que l'on voit très bien. Ici, c'est l'oasis de Dunhuang avec la ville actuelle. C'est une ville qui est toujours en fonctionnement. Ici, c'est le site de Mogao, hein, pour ceux qui connaissent. Et ici, vous avez les lignes défensives, celles que j'étudie. Et vous voyez, en fait, par les cartes satellites, on voit très clairement en fait, la ligne de la muraille et évidemment les restes. Alors faites très attention, évidemment, parce que les Chinois ont cette manie à reconstituer des murailles. Et parfois, en fait, cette reconstitution n'est pas historiquement correcte. Celle-ci n'est pas fausse, mais des fois, en fait, vous voyez, cette partie-là a été reconstituée, tandis que ici, en fait, vous avez des tronçons qui sont d'époque. Également à Guizhou, donc ici, vous avez Dunhuang et cette région de Guizhou, un autre site fortifié, vous voyez, encore parfaitement conservé pour cette époque. Et ça, c'est la deuxième témoignage, c'est qu'en dehors de ces documents, de ces sources archéologiques, on a, grâce aux fouilles, découvert près de, seulement pour Dunhuang, de 60 000 documents administratifs. Alors c'est un peu comme ces textes cunéiformes administratifs dont vous parliez, c'est-à-dire ce sont des échanges, des archives civiles et militaires pour la plupart, qui nous donnent à voir en fait le fonctionnement local de l'administration d'une commanderie. Ici donc ce sont des lamelles de bois, c'est uniquement du bois dans ces régions, qui font 27 cm de long en général sur 1 demi-centimètre de large. Et Là, vous en avez toute une flopée. Donc, c'est vraiment ces textes-là qui sont utilisés par les scientifiques chinois. Et donc, pour la petite histoire, cela me semble intéressant, on a une scission dans, dans l'étude de cette région, puisque les archéologues chinois et les spécialistes de ces textes ont tendance à ne pas communiquer. Donc, si vous voulez, en fait, quand on fait une histoire de la Chine de cette époque, il y a ceux qui étudient les histoires dynastiques, se rapporter à la cour. Ceux-ci travaillent de près avec ceux qui travaillent sur ces documents et ne travaillent pas avec les résultats des archéologues. Donc quand un archéologue publie en fait un article, et celui-ci n'est pas pris en compte dans ceux qui travaillent sur ces textes. On en reparlera plus tard si vous voulez pour des questions. La commanderie d'Unhuang est donc, occupe à peu près 14 000 km² de surface et intègre les régions de Dunhuang et de Guizhou. Vous avez ici la région du Gansu, et si ici, en fait, il faudrait donner le fleuve.
Yumen se trouve où ?
Alors, Yumen est ici.
Ah bon,
voilà.
Je vais aller jusque-là.
Voilà, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. La région de Dunhuang a un aéroport aujourd'hui, donc c'est très facile. En fait, ici, la région de Dunhuang en fait, est assez riche, mais celle de Guizhou est très pauvre aujourd'hui. Il y a très peu de personnes. Yumen est ici, Gansu, et ici, donc, vous avez donc, la zone centrale. La commanderie, nous savons, est douée donc, d'une administration civile et militaire, ce qui est finalement assez commun pour cette période. Aux frontières de l'Empire, donc vous avez ici une carte qui représente, en fait, c'est une carte que moi j'ai faite et qui a été publiée récemment, qui permet en fait de comprendre en fait comment l'administration s'était faite. Je ne vous invite pas à regarder les détails, la conclusion reviendra dessus. Mais ce qui m'importe est de voir que, à cette époque, il y a une suite logique dans la manière en fait de constituer une commanderie. Notamment par, évidemment, la présence militaire. C'est tout d'abord la construction de fortins, alors de relais fortifiés. Là, vous avez la Grande Muraille, d'accord, ici, pour se repérer. Et ici, vous avez une route centrale. Sur cette route centrale a été découvert un site, celui de Xuanxuan, que nous avons ici par les vues satellites, qui a été fouillé, ce qui est assez rare. Hein, 5 campagnes de fouilles d'à peu près 3 mois chacune et qui ont délivré un matériel conséquent. Ici, vous avez la période durant la fouille. Et généralement en Chine, quand il y a une fouille, notamment là, vous voyez en fait que le sol actuel est ici. Donc ça a été fouillé donc en négatif. Et une fois qu'ils ont fait les fouilles, ils ont arasé le tout. Et c'est pour ça que vous voyez ici en fait des traits blancs, ce sont tout simplement des bordures de plâtre qui marquent les anciens murs.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, c'est une question qu'il faudra se... En fait, ils ont. J'ai pas forcément d'image, malheureusement, parce que je. Faute de temps, mais en fait, c'est un site qui est devenu touristique. Ils se sont dit, ah tiens, les gens s'intéressent à ça, donc on va mettre une grande pierre, on va dire ici c'est le site de Xuanxuan, et on va pouvoir y aller par cette route. Et vu que, bah, évidemment, le site a été complètement comblé, il faut un peu montrer à quoi ça ressemblait à cette époque. Et donc, allez, je vous invite à y aller, c'est quand même très intéressant. Oui ? Non, il recomble. Oui, il rebouche, excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Oui, vous avez raison de le dire. Ils rebouchent. Et ici, par exemple, ils ont indiqué que c'était la zone des toilettes. Vous voyez ? Non, il y a vraiment une inscription qui dit ici les toilettes, les commanderies, ça c'est le quartier général. Ici, vous avez la salle d'accueil. C'est exactement les termes qu'ils utilisent pour déterminer cette ville. C'est vraiment de la terre damée, oui. Et pour ce propos, ici vous avez le site. C'est un relais en fait, tout simplement. Donc là, vous avez la route antique qui permettait donc de changer les chevaux. Et c'est un relais administratif tout à fait conséquent, puisque chaque document qui passait, alors je remonte la carte, depuis l'est vers l'ouest, passait par ce relais, était copié, enregistré et archivé. Alors ça, c'est un exemple. On sait que le relais de Xuanxuan doit à peu près, en tout cas pour les plus anciens documents, de 111 avant. Puis là, on a d'autres exemples. Par exemple, Cao Chang. Ici, vous avez en fait ici vous avez un district civil Yuanxuan et un district Mingan. Et ici, c'est un site de Cao Chang qui est antérieur et dont voici en fait quelques images. Alors, je remonte sur tous les photos. Là, vous êtes en plein dans le Gobi et les documents découverts et notamment en fait surtout le travail au carbone 14 a permis de le dater également de cette même période. Ensuite, Les Han construisent deux principales passes, c'est-à-dire ce sont des forteresses destinées à surveiller et contrôler les routes menant dans la commanderie. Celle de Dunhuang en compte donc deux, Yu et Yang, soit la passe de Jade au nord et la passe du Soleil au sud, qui sont espacées de 75 km environ, et situées donc sur les deux routes principales qui menaient ensuite vers les oasis du Xinjiang et donc vers les oasis des routes dites de la soie. Ici, vous avez quelques images. Donc, voici en fait encore une vue satellite. Là, au nord, vous avez en fait la muraille là qui descend. Et ici, c'est la passe de Jade. Donc, ça, c'est la garnison. Enfin, c'est le fortin qui est resté encore intact. Mais quand vous regardez bien ici, vous avez les lignes encore en fait de la dimension totale, avec encore deux tours très clairement ici, et surtout avec cette construction rectangulaire. Les murs d'enceinte sont construits en adobe et mesurent environ 10 mètres de hauteur. La solidité de cette structure repose sur une préparation minutieuse et ingénieuse du terrain sur lequel elle est restée inchangée jusqu'à nos jours. Certains documents sur bois datant de l'année 96, ainsi que des monnaies. Alors, je pense que j'ai quelques exemples. Vous avez quelques images. Quelques monnaies permettent de dater, se suggérer que ce bâtiment est fortifié entre 104 et 94 avant. Ce qui corrobore avec les histoires dynastiques par ailleurs. Depuis ces passes, enfin, étaient construites deux principales lignes défensives. Ces lignes alternant tours et murailles permettent de sécuriser les zones de pâturage en les rendant inaccessibles aux forces Xiongnu, situées au nord. Tout simplement, la ligne en fait défensive, alors suivez notamment à partir de cet endroit-là, en fait était située au nord de la rivière Shule, d'accord, puis partait au sud. Et au nord permettait donc d'éviter aux Xiongnu en fait d'avoir accès en fait à ces zones pour abreuver leurs chevaux. La ligne nord et la ligne ouest, alors la ligne nord est la mieux conservée, vous voyez ici en fait les zones de pâturage, la ligne nord-ouest, et voilà, elle mesure environ 5 mètres de hauteur, donc hauteur restituée. La muraille est formée d'une alternance de couches de terre pillée et de nattes de roseaux, entremêlées par des cailloutis d'ailleurs. Et le matériel archéologique fait remonter la formation de cette ligne à environ 110 à 50 avant. Donc c'est vraiment la période donnée pour le carbone 14. Vous voyez à peu près, donc ça c'est une construction typique de la période des Han. Hein. C'est vraiment, on utilise la terre et ces joncs en fait qui permettent en fait de structurer et d'équilibrer en fait la fortification. Ensuite, une seconde ligne est construite et qui date un peu plus tardive, qui date aussi de cette même période. Donc, pour récapituler, on a entre 111 et 105, 90, une série, donc là c'est deux exemples, mais il y en a quelques quinzaines d'exemples de petits fortins construits le long des routes, puis ensuite des passes sur lesquelles sont reliées ces lignes défensives. Puis, dans le même temps, c'est-à-dire à partir de 90 avant, et je termine bientôt, plusieurs centres urbains commencent à se développer dans le centre de la commanderie. Vous voyez par exemple un exemple par vue satellite. Ici, vous avez une ville clairement fortifiée. Toutes les villes sont également fortifiées dans cette zone, au sud duquel des terres, en fait, avec un canal principal, étaient irriguées. Et ici, nous avons une datation Han pour cette ville. En majorité, vous voyez, en fait, ça c'est une vue plus rapprochée, donc c'est sur laquelle j'ai pu me rendre. Vous voyez, ici vous avez encore les restes dans le gobi de cette mur, donc ça c'est le mur est, situé ici, là vous êtes à l'intérieur, là vous êtes à l'extérieur de la ville. Mais aussi Longle, par exemple, une autre ville construite également sous les Han. Et quand on regarde tout simplement les mesures, celles-ci sont à peu près cohérentes. Ici, les quatre noms ici correspondent aux quatre districts, c'est-à-dire quatre villes construites au sein de cette commanderie. Alors, j'avais promis une carte pour réexpliquer tout ça, la voici. Vous voyez, ça, ce sont les deux principales routes. En jaune, ce sont les différents fortins. Et en vert, ici, vous avez, c'est allé trop vite, en vert, vous avez les six villes construites pour accueillir la population civile et les deux passes pour contrôler les routes et, évidemment, cette ligne nord et cette ligne sud. Tout porte à croire, et l'étude rapide de cette commanderie permet de comprendre l'ordre établi pour administrer et conquérir ces nouveaux territoires. En fait, depuis les premières expansions dans le Russie, en 119 avant, il fallut donc près de 10 années avant que les Han ne décident à occuper et administrer le Russie, puis entendre encore près de 10 années, cette fois-ci confirmée par l'archéologie, pour fortifier cette zone. Le processus de conquête adopté fut donc le suivant, fort renforcer les techniques agraires et hydrauliques locales, contrôler les routes commerciales et enfin construire les lignes défensives. On remarque en fait que la politique de conquête rane s'appuyait d'abord et avant tout sur la capacité à accumuler des récoltes et développer les terres locales. C'est en cela que la présence chinoise pouvait prendre le dessus sur la menace Xiongnu, dont l'économie fonctionnait uniquement sur un mode pastoral ou sur la taxation des territoires conquis. Les lignes défensives ne sont que le résultat de l'arrivée de progressive de populations civiles Han aux frontières du Russie, envoyées par la Cour centrale pour développer ces nouvelles commanderies. Il faut compter environ plus d'un millier de civils envoyés sur ces terres. À ce moment, il s'agissait d'activer des solutions durables dans la défense de ces nouvelles terres et de protéger ces populations. C'est à ce moment-là que les lignes défensives sont aménagées le long du Russie, soit en dernier état dans la stratégie militaire chinoise. Ceci permet de modifier, à mon sens, l'image traditionnelle que nous pouvons avoir des modes de conquête employés par la Chine à cette époque. Ici, vous avez juste un exemple, donc je fais ma pub, hein, c'est parce que ça vient de sortir, je suis désolé. Les doctorants sont obligés de faire leur pub, je pense, mais il y a un article qui vient de sortir et qui reprend une partie, enfin non, pas ses conclusions, parce que ça c'est un autre travail, mais l'étude de la commanderie de Dunhuang. Voilà, je vous remercie.
J'ai une question, enfin, peut-être pour lancer le débat, Monsieur Kizefi a peut-être des choses à dire, ça touche un peu, et même beaucoup à son domaine, non ? Mais en vous écoutant, j'ai pensé à Paul Claudel. Vous allez me dire quel est le rapport. Eh bien, il y a je ne sais plus où, dans ses écrits, il parle de la muraille de Chine. Il dit que ça n'a jamais servi à rien. Donc je soupçonne un lobby d'entrepreneurs de travaux publics qui se sont branchés sur la pompe à finances. Ce n'est pas son vocabulaire, mais c'est l'idée. Pour tout simplement s'enrichir aux dépens des contribuables. Alors, je sais, c'est évidemment exagéré, mais ma question est plus sérieuse. Il y a deux phases dans votre affaire. Il y a d'une part, si j'ai bien compris, des commanderies avant le passage à la construction de défense en ligne.
Tout à fait.
Et alors là, il faut avoir l'avis de militaires. J'ai le sentiment que les commanderies sont beaucoup plus efficaces pour contrôler une zone difficile à contrôler de ce type, beaucoup plus efficace qu'une muraille. Non ? C'est une question que je pose.
Ah, écoutez, moi, c'est une question qui m'a amené à réfléchir de cette façon. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je reprends cette image. Vous voyez ici la ligne muraille ici. Bon. À quoi elle sert ? Elle sert à rien, enfin, c'est-à-dire d'un point de vue militaire. Vous allez voir pourquoi. Ici, c'est le désert. Et déjà, à cette époque, c'était le désert. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a aucune menace qui peut venir. Il suffisait donc de poursuivre cette ligne nord pour éviter que les Xiongnu ne pénètrent dans le territoire. Donc, pourquoi avoir construit cette mur ? Ce mur, en fait, permettait notamment de relier les deux passes et donc de créer en fait un réseau de communication, donc de finalement marquer une route qui n'était pas forcément facile à déterminer, qui devait être rapide, efficace, et c'était à ça que servaient ces murailles. Et d'ailleurs l'archéologie le démontre, puisque il n'y a aucune courtine ou aucune manière de monter, on ne marche pas sur ces murs, ce sont en fait des monticules probablement fortifié, mais qui n'avait pas la valeur militaire à laquelle, en général, on la rattache. Donc c'est vrai que pour moi, je suis convaincu que de toute façon, ça rentrait pas dans la... Ça coûtait très cher, de toute façon, pour les Chinois. Donc, ça rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur combien de soldats sont nécessaires pour défendre un territoire. On a des chiffres de notre côté par les documents, et en fait, sur les nombreuses tours au nord, il faut pas imaginer qu'ils restaient constamment en fait dans ces zones. Ils vivaient d'ailleurs majoritairement dans la partie centrale du territoire. Ils vivaient au niveau des villes, évidemment, c'est là où ils vivaient. Ils avaient probablement des missions de 2 ou 3 semaines, on le voit dans les documents, pour vérifier comment les tours en fait étaient construites et s'il fallait les réparer. Mais il n'y avait pas en fait une défense, c'est-à-dire durable sur 2 siècles. Ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait. C'est au centre que la vie se faisait, la commanderie en elle-même, la ville en elle-même était d'une certaine manière la meilleure défense que pouvaient avoir les Chinois. Ça, c'est sûr. Oui, oui.
Monsieur Boulard.
Oui, le lien entre le glaive et la charrue est assez ancien. Il me semble que c'est aussi plus ou moins comme ça que fonctionnaient les légions romaines. Non, la question que je me pose, c'est que les militaires laboureurs qui arrivaient, on voit qu'on construit des murs une fois qu'il y a de la population, entre guillemets, civile, donc des familles, etc., donc des gens qui ne sont pas forcément autonomes en termes de défense, alors que les militaires sont censés l'être. La question que je me pose, les militaires qui ont été amenés ici, pour commencer à défricher plus qu'à combattre d'ailleurs, ils sont restés, ils se sont installés sur place, ou est-ce que les contingents ont été ensuite renvoyés ailleurs? Est-ce que c'est le système de l'honesta missio de la Légion bien caractérisé chez Astérix, ou est-ce que ces gens-là ont fait un job, on les a remplacés par des civils qu'il a fallu défendre, d'où les murailles, etc., et sont ensuite partis conquérir le Lopanter d'à côté, voire la commanderie d'à côté, pourquoi pas.
C'est très difficile, parce que là, vous avez en fait apporté la conclusion de ma thèse, et ça aurait économisé quelques années de travail. Mais c'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a une première période où ce n'est que les militaires qui occupent ces territoires, c'est logique. Et donc ils sont autonomes. En général, on les termine par les Duntiens, c'est-à-dire des soldats laboureurs, parce que leur objectif, bon, d'accord, est d'occuper, de défendre, de déterminer les lieux qui sont propices à occuper et à contrôler les routes, mais pour préparer les zones où vont s'installer ces villes. Hein, donc ça c'est assez logique au final. Et on remarque que vers les années 50 avant, alors ça c'est l'avantage de nos textes, c'est qu'on a vraiment un siècle d'histoire bien documenté localement. Et on sait que dans les années 50, eh bien, l'administration militaire progressivement est substituée par une administration civile. Et que c'est même les magistrats des districts qui contrôlent et administrent les soldats. Alors probablement ce sont peut-être les mêmes soldats, ça c'est difficile de savoir, mais en tout cas ils n'ont plus du tout la même fonction. Et on sait très bien qu'à ce moment, c'est l'administration civile, ce sont des fonctionnaires, c'est eux qui font marcher le territoire.
Le temps de recouvrement c'est combien entre grosso modo la première implantation militaire et l'administration civile? J'ai envie de dire, est-ce que c'est les mêmes militaires qui sont au début de leur carrière, à la fin de leur carrière, ou est-ce qu'il y a déjà eu...
Non, il y a des roulements. Il y a des roulements parce qu'on sait par exemple que ceux qui par exemple attaquent le Vietnam vont se retrouver après vers le nord-ouest. Et ensuite ceux du nord-ouest vont se retrouver en Corée. Ils se déplacent assez souvent, les généraux, mais aussi les soldats. Ils ne restent pas sur des longues périodes. Et les civils, je pense, oui, eux avaient la réputation, enfin devaient en fait rester pour contrôler ces zones de façon plus durable. Et là, il y a effectivement sans doute des successions de familles. Mais il y a un point qui est intéressant, parce que quand une personne meurt, et là, les textes le montrent, parce qu'il y a des codes de loi qu'est-ce qui se passe quand on meurt à cet endroit. Et les familles chinoises, c'est-à-dire Han, quand elles décèdent, par exemple, à Dunhuang, elles ne sont pas enterrées à Dunhuang. L'objectif est de les ramener dans le centre du territoire chinois, que l'on appelle Zhongguan, c'est-à-dire à l'intérieur des passes, c'est-à-dire à l'est du fleuve jaune. Et ça, c'est déterminé comme le territoire chinois. Donc, en fait, on sent que, de toute façon, l'installation est probablement durable, mais ce n'est pas fait pour durer, si vous voulez. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais bon, il faut compter, à mon avis... 40 ans entre le moment où ils prennent et ils occupent ces relais, 111, oui, vers 60, de 60 ça commence à devenir vraiment
une...
moi je pense que c'est plus les mêmes.
Oui, je me posais simplement deux questions. C'était la présence de fossés, voyez les canaux d'irrigation.
Je peux revenir à l'image d'ailleurs.
Qui peuvent, le cas échéant, être suffisamment importants pour briser une charge de cavalerie. Et la question aussi de la composition de la cavalerie des Han.
Alors, pour la première question, effectivement, alors, c'est-à-dire que il y avait des raids qui ont été nommés, qu'on connaît, et qui attaquent effectivement une partie de ces... C'est très probable que l'agriculture, parce qu'en fait, le système des sillons en Chine, en fait, c'était, comme tout en Chine, tout est parfaitement carré. Et on n'a pas de tableau, mais si vous voulez, en fait, les terres chinoises à cet endroit, je vais
chaque terre en fait avait exactement les mêmes parcelles. En fait, les mêmes distances entre chaque parcelle. Vous voyez, ici en fait, il faut compter la même distance que celle-ci. Alors, vu qu'il n'y a pas eu fouille, on ne sait pas si toutes ces terres sont de la même époque. Mais il est clair qu'en fait, pour déterminer en fait ces terres, en fait, ils défrichaient en fait le terrain et la terre en fait défrichée était placée sur des mottes qui finalement divisaient chaque parcelle agraire. Et c'était celle-ci qui était irriguée. Probablement que ça, on pouvait repousser évidemment. À la réponse à votre deuxième question, qui était d'ailleurs
la cavalerie.
La cavalerie, oui, c'était ça. Merci. En fait, la cavalerie chinoise, au moment où on parle avec la conquête Xiongnu, en fait, est excessivement mauvaise. Ils ont mis toutes leurs forces, en fait, vers 130 jusqu'à 110 pour rivaliser contre les Xiongnu, mais ils se retrouvent face, en fait, à un problème, c'est qu'ils n'ont plus de chevaux. Ils ont une pénurie de chevaux. En 104 et 102, vous voyez, la chance qu'on a en Chine, c'est ces dates-là, ils vont, en fait, faire une mission dans le Fergana pour tenter de conquérir ce territoire connu parce que à cet endroit, ils ont des chevaux capables, par leur vélocité, de rivaliser avec la cavalerie Xiongnu. Dans les tombes, une majorité sont pillées, mais on a quand même des tombes de soldats et on a des chars, des fosses à chars qui ont été découvertes. Donc, j'imagine que le cheval, et d'ailleurs on le voit dans les textes, avait deux buts principaux. Le premier, c'était l'apparat, évidemment. Et le deuxième, c'était uniquement en fait, pour permettre à des émissaires chinois d'accompagner des hôtes non chinois et donc de les ramener vers l'Empire. La majorité, sinon, des animaux, donc on a des chameaux, beaucoup de chameaux, et sinon des bœufs en majorité pour déplacer en fait, les vivres ou pour que les populations se déplacent.
Une autre question, enfin, c'est vraiment une question. Bon, là, nous sommes dans la Chine du Nord,
oui.
Nord-Ouest, mais enfin, la Chine du Nord, celle du fleuve jaune.
C'est ça.
Et donc, pour vous, c'est le centre de gravité, et pas seulement parce que c'est votre centre d'intérêt, mais parce que c'est, à ce moment-là, le centre de gravité. Alors que, je dirais, l'image que l'on a généralement, je veux dire, en dehors des cercles, de sinologues et autres, on voit plutôt la Chine du Yangtze, du sud. Or, il n'y a pas un basculement à aucune époque, que je sache, de basculement vers le sud, mais le sud ne devient vraiment une pièce essentielle du dispositif qu'avec les Tang, non ?
Avant déjà. Le sud est une... c'est vrai que c'est mon centre d'intérêt. Donc moi, je m'intéresse au nord-ouest, mais... Quand on sait, vu qu'ils ont fait leur conquête dans le nord-ouest en même temps qu'ils sont allés vers le sud. Et ils savent très très bien que ces territoires sont excessivement riches et qu'il y a des réseaux de communication vers l'Inde qu'ils veulent contrôler. Et évidemment, le bassin du fleuve bleu, le Yangtze, est très riche en fait dans les cinq céréales hein, dont on parle, et ils vont l'occuper aussi de façon durable. Je ne pense pas qu'il y a un basculement du centre de gravité. Le fait est que, vu que la capitale est située ici, à Chang'an, le nord-ouest était considéré comme le principal problème à cette époque. Lorsque l'Empire va se démanteler en 200 de notre ère, et vont se fonder un certain nombre de royaumes indépendants, on voit très bien que la majorité de la culture Han chinoise s'implante dans cette partie-là, au contraire. Si on revient dans le temps, dans l'âge du bronze, donc en 1900 avant à peu près, c'est la vallée du fleuve jaune qui est vraiment représentative du berceau de la culture chinoise, tandis que le fleuve bleu, elle, en fait, est connue pour avoir une culture dite presque indigène, finalement très différente des centres néolithiques chinois. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un basculement. C'est juste que là, en l'occurrence, la capitale est très mal placée. Donc, ils sont obligés de faire avec. Et la capitale, en l'occurrence, a été fondée de la même manière. Alors, ça, c'est une question que je voulais vous poser. Mais sur Marie, moi, je ne connais pas du tout hein, cette partie-là. Mais vous avez dit que Marie était une fondation in situ, c'est ça que... C'est pareil pour Chang'an. En fait, ils ont conçu la ville depuis le départ. Et ils se sont dit, on va s'installer là. Donc, probablement par la logique des ressources en eau, par les fleuves qui découlent. Donc là, ils sont sur à ce niveau-là. Mais quand on sait qu'il y a une menace au nord présente, et qu'on sait que le fondateur de l'Iran, Liu Bang, est un originaire du sud, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fondé sa capitale à cet endroit? C'est une question que je me pose. Parce que ça a posé beaucoup de problèmes. Et Chang'an a été occupée et même conquise après, plus tardivement. Donc. Voilà.
Comment dire? Je crois que le centre de gravité de l'histoire chinoise, de la culture chinoise, c'est plutôt au nord. Encore aujourd'hui, Pékin est au nord. Kaifeng était au nord. Et le sud, comment dire, devenait centre de gravité dans les périodes, comment dire, menacées ou interdites. Les Song du Sud, si vous voulez. Bon, mais parce qu'il y a une invasion des Chines, précisément. Enfin. Et donc, le début, c'est, vous dites, c'est le fleuve jaune, c'est la vallée de la Wei.
C'est ça, tout à fait, absolument.
Et donc, non, mais je veux simplement dire que nous avons en général une idée un peu fausse, un peu, comme pour la Mésopotamie, si vous voulez, de où s'est passé l'essentiel, si vous voulez, de la genèse, si vous voulez, de la Chine, c'est au nord.
Et c'est
pas un pays tropical.
Non. Et cette période-là d'expansion va déterminer les frontières de la Chine actuelle. Hein. Donc, après, il va y avoir des mouvements, des territoires qui se résorbent, etc. Mais cette politique, qui finalement dure presque 150 ans, au grand maximum, va déterminer en fait ce que sera la Chine dans ces prochains siècles, quand même. Donc, c'est quand même intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont tenté de conquérir. Je crois que Laurent bascule un peu la tête, mais... Moi, je vous remercie parce que ça m'a permis de réfléchir différemment sur.
Tout de même, alors ça c'est pour un titre personnel. Non, il se trouve que je suis allé au Gansu, tout en haut. Ça n'a rigoureusement rien à voir avec Dunhuang, ni l'archéologie, ni l'art, ni rien. Tout ça, c'était une petite équipe. J'en faisais partie à l'époque. Bon, à l'époque, c'était il y a 4 ans. Nous sommes allés voir comment les Chinois comptaient stocker en profondeur leurs déchets nucléaires. Ils ont décidé de l'installer là-haut. Donc, on est parti de Yumen en 4x4 et on s'est enfoncé dans le désert de Gobi. Et on est tombé sur un brave homme qui est là depuis 25 ans. Il creuse et fait des trous. Et à 700 mètres de profondeur, dans du granit. Alors, ça nous a un peu paru bizarre parce que le granit est facilement fissuré. On lui a dit, il n'y a pas de fissure. Si, probablement, mais c'est les eaux, enfin les eaux donc contaminées, s'écouleront vers la Sibérie. Alors, bon, on a été édifiés.
Ils font pareil avec Loulan, je pense. À Loulan, ils ont aussi des centres des déchets nucléaires qu'ils essayent d'enfouir maintenant.
Enfuir, ce n'est pas la même chose que stocker en profondeur. Là, c'était le point. Enfin bon, c'est une incidente. Excusez-moi.
Non.
Bon.
J'espère ne pas avoir pris
trop
de temps.
Nous poursuivons. Oui, hop, je vous en prie. Oui.
J'aurais juste encore une remarque par rapport à la protection en surface que vous avez fait pour la construction du mur. Moi, ça me rappelle parce que j'ai eu l'occasion d'aller servir au Sahara occidental. Et ça me rappelle en fait ce que les Marocains ont fait dans le Sahara occidental, dans ce qu'ils ont appelé le mur. C'est une sorte de mur pour 1000 km. Et on retrouve en fait ces deux phases. Une première phase où il y a d'abord plus de points d'appui. Et ensuite, il y a une fortification sur une construction d'un mur ou d'un peur. Mais avec toute une tactique, alors du coup, ma question, c'était un peu de savoir est-ce que l'on sait s'il y a une norme pour une tactique mise en place lorsqu'il y avait une tentative de raid, par exemple, lorsqu'il y avait une attaque sur le mur, est-ce que c'est normé, est-ce qu'il y avait une organisation
J'ai voulu en parler aujourd'hui, mais c'est-à-dire que le temps fait que c'est difficile de parler de tout. Mais ça, c'est un sujet qui est très riche par les sources que nous avons. On va reprendre la fin. Je réponds rapidement. Si vous voulez, bon, c'est la meilleure image qu'on puisse avoir, là, je pense. On va revenir sur le mur. Voilà. Oui, ici. J'essaie de prendre la meilleure image, si vous voulez. Les raids sont nombreux, on les connaît dans les textes, donc en fait dès qu'il y a un raid c'est rapporté, et la première chose qu'ils mettent en place c'est qu'au niveau des tours ils ont sur les hauteurs en fait des cloches, et c'est vraiment cette question, hein. C'est ça, hein, on est d'accord, hein. Ils ont un système de cloches et de fascines qu'ils brûlent, de fumée en fait, finalement un peu comme on pourrait trouver dans les pays cathares pour indiquer qu'il y a une menace, et ça permet donc d'informer en fait en deçà en fait finalement les gouvernements centraux qu'il y a une menace et qu'il faut envoyer en fait des soldats au niveau des lignes. C'est souvent comme ça. Donc il y a même, enfin, et ça c'est ça les textes, le courrier envoyé dit aujourd'hui un tel a envoyé un signal de fumée, nous ne l'avons pas vu, la tour est trop éloignée, il faut faire quelque chose. Ou dans d'autres cas, c'est nous avons entendu la cloche, mais avec le vent, on ne sait pas si ça vient de la droite ou ça vient de la gauche. On a ce type de texte. Mais il y a une structure très 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 claire mise en œuvre. Et par exemple, à cet endroit-là, il y a un soldat qui dit « Je n'ai pas fait attention à la fumée envoyée, je me propose humblement de venir au gouverneur de Dongguan pour tout simplement me faire taper sur les doigts et me faire remplacer. » Donc il savait très très bien comment réagir. Ce qui est intéressant dans les textes, c'est qu'on voit que, d'abord ça montre déjà une chose, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de soldats à la frontière, c'est qu'ils sont toujours obligés de faire appel en fait aux garnisons dans la partie centrale pour envoyer en fait des cavaleries et donc repousser. Ils avaient une autre technique aussi, c'est-à-dire que chaque jour, le matin, enfin, c'est-à-dire que quand ils étaient en fonction, il y avait ce qu'ils appellent un tien-tien, c'est-à-dire des terres, des champs célestes qui mesuraient quoi, 6 mètres à peu près de large, et qui étaient placés au nord de la muraille, ou au nord des tours. Et la nuit, en fait, s'il y avait eu quelqu'un qui se serait infiltré, il y aurait des marques en fait, de pas sur le sol, par ces terres. Et donc ça c'est vraiment très caractéristique, et donc ce que je disais c'est que les textes nous montrent aussi que les Xiongnu ne sont pas que considérés comme des ennemis, c'est-à-dire que même il y a certains moments où il y a des échanges commerciaux avec eux, il y a même des Xiongnu qui se rendent à la garnison intel et qui veulent même se coaliser pour attaquer d'autres nomades Xiongnu, donc on sent que dans les faits c'est très compliqué. Mais pratiquement, ils ont cette solution-là.